Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka l'ingresso in aria ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
La rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan des phases de groupe des Coupes d'Europe. Maintenant que nous avons un premier aperçu des performances des différents clubs italiens, et pour ce faire, vous le savez, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Johan et bonjour à tutti. Hein. Alors, et... un petit peu d'accent italien comme ça en ce début de podcast.
Et d'autant plus, mon cher Guillaume, que au niveau du bilan, c'est et oui. Pas si mal.
C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de choses à dire quand même à l'intérieur de ce bilan-là.
Ouais.
Mais disons qu'au niveau purement comptable, c'est vrai que c'est pas mal.
Allez Guillaume, on se lance, on va donc revenir sur les 7 équipes européennes qui jouaient en Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, Europa League et Conference League en ce début de saison 2022-2023. On enregistre, je le précise, au lendemain du dernier match de Coupe d'Europe des clubs italiens, donc on est le vendredi 4 novembre et on ne connaît pas évidemment les tirages au sort qui auront lieu lundi, mais on y reviendra plus tard. Mon cher Guillaume, je te propose de commencer par la grosse déception de ce début de Coupe d'Europe, c'est la Juve.
Ouais.
Troisième de son groupe de C1, une seule victoire, ça c'est peut-être ce qui fait le plus mal, c'est une seule victoire à domicile contre Haïfa. Donc reversé malgré tout en Europa League avec 3 petits points, il y a quand même moins de 10 équipes sur les 10 dernières saisons, enfin il n'y a même pas une équipe par an qui réussit à être reversée avec 3 points ou moins en Ligue Europa. Bon, des performances décevantes, un jeu décevant, pas mal de choses décevantes en fait, Guillaume.
Écoute, 5 défaites en 6 matchs, tu l'as dit, 3 points, c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Juve, donc le bilan est, on peut le dire, catastrophique. Parce que dans une poule, certes, Bon, t'as le PSG, on va dire, qui était au-dessus du lot, même s'ils finissent deuxième. Mais disons, sur le papier, au moment du tirage, c'était avec eux qu'on pensait que la Juve jouerait la première place. Après, on a vu que Benfica, bah, c'est la deuxième équipe vaincue en Europe. Donc, c'est vrai que la diversité était assez élevée. Et ils l'ont prouvé même lors des matchs face à Paris. Mais au-delà des résultats qui sont cata, en fait, la Juve a poursuivi sur sa lignée du championnat, où parfois elle arrive à s'en sortir. Tu sais, comme à Lecce, par exemple, où elle s'en sort sur un petit bijou. Mais en Europe, ça ne passe pas. Et moi, vraiment, tu vois, Johan, sur ce début de saison, on peut dire très compliqué de la Juve, pour moi, le point, on va dire, le plus bas, c'était vraiment ce match face au Maccabi, où vraiment, je pense qu'on a atteint le... Alors, peut-être pas le point de non-retour, parce que bon, il y a toujours une suite de toute façon, mais disons que pour moi, là, ça a été vraiment un naufrage en Mondovision, où vraiment, face à une équipe où tu vois que le Benfica, on a mis 6 quand même lors du dernier match, où bon, tout le monde plus ou moins a gagné, la Juve là, s'est inclinée là-bas, elle perd 2-0 à la mi-temps, et il y a eu une espèce de... Tu sais, de résignation, de vraiment pour moi ce match-là, de tous les matchs qu'a fait la Juve, triste qu'on a pu voir, ce match-là vraiment pour moi était le voilà le celui qui m'a le plus déçu. Mais dans la globalité de la campagne de la Juve, c'est vrai que c'est inadmissible pour un club pareil, blessé pas blessé, Allegri pas Allegri, c'est pas normal que la Juve termine avec 3 points. Heureusement, il limitait les gars parce qu'ils vont aller Europa, tu l'as dit, mais on peut aussi déplorer un manque à gagner de 20 millions d'euros. Selon le Cicatrice Finance, donc ce qui est énorme pour un club qu'on a perdu, on le rappelle, 255 lors du dernier bilan annoncé pour l'ultime exercice. Donc, au-delà de l'aspect comptable, sportif, l'aspect financier aussi fait très mal à la Juve. Donc, disons que malheureusement, ça a confirmé le peu qu'on voyait en Serie A et en Europe, malheureusement, c'était trop limite.
Ça, c'est une catastrophe, tu l'as dit, sur le plan sportif, en termes de performance, sur le plan du jeu, sur le plan individuel même, sur le plan de l'entraîneur, sur le plan économique. Et si on ne disait pas ces mots-là, je pense au mot catastrophe, en fait, ça voudrait dire qu'on s'habitue à un déclassement de la Juve à l'échelle européenne, ce qui, en soi, dans les faits, est assez vrai, puisque le dernier quart de finale, c'était contre l'Ajax, donc ça devait être 2018-2019. Ensuite, il y a eu des éliminations contre Porto, contre Villarreal, contre Lyon. Là, tu passes pas, même pas la phase de groupe et tu te retrouves en barrage de la Ligue Europa. Et on ne peut pas se résoudre, quand on est la Juve, quand on a cet ADN-là, à avoir ce genre de prestations. Et aujourd'hui, on est très loin des prérequis pour être performant en Ligue des Champions, notamment sur le plan du jeu où... Le truc de on compte sur les individualités qui vont nous sortir de l'absence de jeu, ça n'existe plus en fait à ce niveau-là. Et on l'a vu dans la Ligue des Champions, ça ne peut plus exister ce genre de choses-là. Et ça a vraiment mis en valeur les manques très importants au niveau sportif, constitution de l'effectif de cette équipe de la Juve. Alors il y a peut-être un motif d'espoir, mon cher Guillaume, c'est le dernier match contre le Paris Saint-Germain.
Oui.
Où ça a été mieux, et d'ailleurs ça amène une petite question, c'est puisque Fagioli et Miretti, tout le monde s'est accordé à dire qu'ils avaient fait 2 bons matchs, Fagioli sans doute encore plus que enfin, je l'ai trouvé vraiment très très bon Fagioli pour le coup, encore plus que Miretti, il va se passer quoi quand Pogba va revenir, quand Paredes va revenir qui n'est pas bon depuis qu'il a signé à la Juve, quand McKennie va revenir,
McKennie,
il va se passer quoi pour ces jeunes-là?
Johan, on le sait ce qui va se passer, ils vont jouer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on découvre des Miretti, des Fagioli, Soulé qui est rentré aussi, Ealing qui est très bien rentré à Lisbonne contre le Benfica, ouais. Qui a sonné un peu la révolte. Mais disons, enfin, on peut pas se mentir, Johan, Allegri, ça n'a jamais été un entraîneur qui lançait les jeunes, qui les fait progresser même. Et aujourd'hui, pour moi, alors faut rappeler que contre le PSG, paradoxalement, c'est le meilleur match alors qu'ils ont 12 blessés.
Ouais.
Mais pour moi, aujourd'hui, si la Juve a un effectif au complet. Et si Di Maria, Pogba et d'autres sont arrivés cet été, c'est pas pour rien. Donc, pour moi, avec un effectif complet, je suis pas certain qu'on aurait vu autant de temps de jeu pour Miretti, autant de temps de jeu pour Fagioli. Et tu vas voir que si la Juve récupère, on va dire une grande partie de son effectif, parce que c'est vrai qu'elle a pas été épargnée. Alors,
c'est vrai.
On pourra parler dans un prochain podcast sur les pourquoi du comment. Et Allegri a assumé une partie de faute. Mais en tout cas, on peut pas féliciter Allegri de faire jouer les jeunes, d'un côté il n'a pas le choix de les faire jouer parce que l'effectif est tellement limité. Tu voyais le banc contre le PSG, c'était quand même assez incroyable, où il y avait quasiment 6 joueurs dont 2 gardiens, Perrine et Pinsol, donc c'est tellement limité que Allegri a pas le choix. Donc je sais pas ce que toi t'en penses,
mais
honnêtement, moi
mais
je
c'est
vois
le bon terme,
mal
Guillaume.
Allegri.
Il le fait par obligation, pas par choix. Hein.
Voilà, voilà.
Mais bah, ça a toujours marché comme ça.
Et tu sais que quand Paredes va revenir, quand McKinney va revenir, quand Locatelli a fait un très bon match et il revient, et heureusement, Locatelli, lui, a pris une place, on va dire, à part entière dans cette Juve-là.
Mais c'est le meilleur match de Locatelli depuis qu'il a la Juve, Guillaume ?
Oui, oui, pour moi, oui.
Je suis d'accord.
Toi ?
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Ouais, ouais. Et tout au sport aussi est d'accord, parce que le lendemain, ils avaient titré que c'était le meilleur match de Locatelli. Mais en tout cas, voilà, avec un effectif complet, je ne vois pas Allegri. Et dites-nous ce que vous en pensez, vous, hein, aussi l'espoir de la Juve. Moi, je vois mal Allegri, même si aujourd'hui, Fagioli Meretti, on peut plus dire que c'est des surprises, parce qu'on commence à les connaître. Et je suis certain que quand les autres vont revenir, connaissant Allegri et connaissant aussi, tu sais, Johan, l'obligation du résultat, parce que lui, il a pris trop de retard aujourd'hui pour, on va dire, faire progresser des jeunes ou donner du temps de jeu pour les faire grandir. Allegri va repartir sur du su. Et quand Pogba va revenir, il jouera. Quand McKinney reviendra, il jouera. Quand Paredes va revenir, il jouera. Et je pense que c'est ce qu'on verra après la pause du Mondial, encore une fois, si tout l'effectif de la Juve a récupéré.
Guillaume, alors je le précise, on fait assez court aujourd'hui parce qu'on a un temps très limité. On va passer au Napoli. Le Napoli, 5 victoires en 5 matchs, qualifié après seulement 4 matchs en phase de groupe dans une poule avec Liverpool, l'Ajax et les Rangers, finalistes de la dernière Europa League, donc excusez du peu. La qualité de jeu impressionnante. Paradoxalement, un match que j'ai beaucoup aimé, c'est aux Rangers. Non pas forcément parce que c'était le match le plus maîtrisé, mais justement parce que dans les moments durs, on a vu un Napoli en capacité d'être costaud collectivement et de piquer au moment où il fallait l'équipe des Rangers. Alors évidemment, la démonstration dans l'absolu contre Liverpool est incroyable. Mais ce match contre les Rangers, ça pour moi est un moment clé de cette campagne de Ligue des Champions. Et je vais donner juste une petite stat avant de te lancer, Guillaume. Sache que le Napoli a la plus haute valeur des expected goals sur toute la phase de groupe de Ligue des Champions.
C'est certain que si tu regardes comme ça la campagne globale du Napoli, tu pourrais te dire que c'est quasiment une campagne presque parfaite, parce que cette défaite à Liverpool n'est pas tellement méritée non plus. Mais comme tu disais, c'est une équipe aussi qui a montré un autre visage dans les moments compliqués. Et on le sait que c'est ce qui a pu manquer au Napoli ces dernières années, c'est de souffrir ensemble et de résister, on va dire, aux vagues. Il y en a eu à Glasgow sur le 0-0 où ça a été plus compliqué. Mais le Napoli a su aussi résister. Aller chercher des victoires précieuses et respirer vraiment un collectif qui a plusieurs visages. C'est pas seulement ce Napoli qui marque, qui va vers l'avant, c'est aussi un Napoli qui sait défendre, qui sait souffrir. Et surtout, Johan, on a vu une équipe qui est au niveau en Europe, parce que on les voit évidemment en Serie A tous les week-ends et on voit que pour l'instant, c'est. On en a parlé d'ailleurs, hein, j'invite les gens qui n'ont peut-être pas écouté un podcast sur le Napoli, on a fait quand même une revue plus globale sur l'effectif, sur le début de saison assez dingue de ce club. Mais en Europe, il y a toujours une marche à suivre. On le voit par exemple avec l'AC Milan. Hein. Parfois, c'est un peu plus compliqué, alors qu'ils sont champions d'Italie. Et là, ce Napoli-là n'a pas faibli en Europe. Et quand on sait comment la marche est haute entre la Serie A et l'Europe, on aurait pu être inquiet. Non. Et c'est vrai que cette première grosse victoire face à Liverpool 4-1 avait donné le ton. Mais le Napoli n'a pas lâché. Ils sont allés chercher la première place quand même, dans un groupe qui n'a pas été simple. Et voilà, on va espérer que le tirage soit assez clément pour Naples lundi. Mais voilà, en tout cas, c'est une campagne qui est évidemment plus qu'est réussie. C'est la meilleure de l'histoire du club, et surtout autant au niveau comptable qu'au niveau des prestations. Parce que même cette victoire à Amsterdam, Johan, toi qui suis beaucoup l'Ajax, c'est pas tous les jours qu'on voit l'Ajax se faire humilier comme ça à domicile. Et on va dire que c'est une campagne qui va marquer quand même l'histoire du club. Alors peut-être que le Napoli, et sûrement que le Napoli n'ira pas au bout de cette compétition, mais en tout cas cette campagne-là, pour l'instant, cette phase de groupe, c'est la plus aboutie quand même de l'histoire de ce club.
Et ce sera aussi l'une des plus abouties pour un club italien de l'histoire de Ligue des Champions.
Oui, bien sûr.
Clairement.
Bien sûr. Surtout vu des adversaires, encore une fois.
Ouais, exactement. Guillaume, tu l'as dit, on va pas faire plus long parce qu'on a fait quand même à peu près une heure sur le Napoli lors du précédent podcast. Donc, on vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le Napoli, à écouter cet épisode publié il y a quelques jours. On passe à l'Inter, Guillaume, qui avait le groupe le plus compliqué, je trouve.
Oui.
Même si celui du Napoli n'était pas simple, c'est vrai. Mais il y avait quand même le Barça, le Bayern et un échelon inférieur, le Victoria Pilsen. Deuxième de son groupe, qualifié après 5 journées. Je pense que si on nous l'avait dit, on aurait signé dès demain, mon cher Guillaume. 10 points, 10 points, 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Une bonne évolution avec les bons matchs contre le Barça, je trouve. Et il y a quelque chose qu'on a sans doute un peu sous-évalué. C'est quand même de se dire que cette phase de groupe de Ligue des Champions, elle a été faite en grande partie sans les deux joueurs, je ne sais pas si on doit dire les plus importants, mais tu sais, en début de saison, quand on dit les joueurs à suivre dans les équipes, bah à l'Inter, on était quand même sur Brozovic-Lukaku, pour deux raisons. Il y en a un, c'est le métronome, et l'autre, c'est l'attaquant tant attendu pour son retour et pour planter plein de buts. Sauf que ils n'ont pas joué tous les matchs, loin de là, l'Inter a dû faire 100, et malgré cette absence de deux leaders, eh ben, ils ont réussi à se sortir d'un groupe quand même qui est très compliqué.
Et surtout, Brozovic va revenir, Evan, parce qu'on sait qu'il s'est entraîné. Alors, on enregistre le vendredi, deux jours avant le match, le choc face à la Juve. Mmh. Et alors, il va évidemment reprendre sa place, mais Çalhanoğlu, c'était quand même pas trop mal, non, pour le remplacer.
Mais d'ailleurs, ça coïncide avec les bons choix de Simone Inzaghi, qui était quand même très critiqué à un moment donné.
C'était notamment,
notamment pour les performances en Ligue des Champions. Lui a fait des choix très forts, Onana, Di Marco installé à gauche, arrêter l'alternance sans arrêt de certains joueurs, une rotation un peu bizarre, Çalhanoğlu devant la défense, etc., etc. Dzeko vraiment fixe avec Lautaro. Et bon, ça a donné une fin de phase de groupe nettement plus intéressante que le début.
Non, clairement, et il y a ce match au Camp Nou qui pour moi est encore plus maîtrisé que celui à domicile face au Barça.
Ouais.
Qui pour moi était le plus abouti de cette campagne-là, parce que si Aslani passe le ballon à la fin, ça fait 4-3 et l'Inter aurait logiquement gagné là-bas. Mais oui, tu l'as dit, c'est le groupe le plus compliqué sur le papier. Personne, honnêtement, ou presque personne, n'aurait misé sur une qualification en 8e, bien que le Barça aujourd'hui n'est plus le Barça de l'époque. Mais bon, quand tu tires quand même le Bayern et le Barça, ça ressemble quand même à un tirage assez cauchemardesque. Mais tu vois, Johan, c'est aussi l'expérience de la Ligue des Champions, parce que on rappelle que l'Inter est retourné à l'époque avec Spalletti, tu te souviens. Mm-hmm. Donc il y a quand même un passé récent, on va dire, assez chargé en Ligue des Champions. Et cette expérience cumulée, on sait qu'avec Conte, c'est pas toujours passé la phase de groupe. Spalletti, c'était pareil. On sait qu'avec Inzaghi, ils ont enfin passé ce cap-là. Et on sent que dans son processus et dans son projet, bien qu'on pourrait redire des choses sur les choix de mercato et autres, mais bon, c'est pas tant le sujet. Mais dans sa progression, on va dire linéaire de chaque année, l'expérience que t'engranges en C1, ça t'apporte aujourd'hui, on va dire, un vécu que tu portes sur certains matchs. Et quand tu vois, alors le Bayern, pour moi, c'était vraiment trop au-dessus, mais face au Barça, t'as quand même deux matchs globalement plus ou moins maîtrisés. Et l'Inter, il y a 2-3 ans, je suis pas certain qu'elle les aurait fait. Et aujourd'hui, parce que l'Inter a quand même la colonne vertébrale de ces dernières années, elle a rajouté en plus que la coupe qui n'a pas été là, tu l'as dit, mais voilà, pour moi, ce passé européen qui manquait, parce que les deux clubs de Milan, on le sait, ont connu des années sombres lors de ces dernières décennies, mais comme l'Inter, on va dire, est un peu en avance sur le projet européen, du moins parce que Milan est revenu il y a 2 ans ancien, et l'Inter, ça fait 5 ou 6, donc on voit que l'Inter quand même est plus avancé en Ligue des Champions. Et rappelle-toi, Johan, à Liverpool la saison dernière, ils gagnent 1-0. Et ils peuvent même aller chercher la victoire et la prolongation. Malheureusement, Inzaghi fait peut-être quelques choix discutables, surtout au niveau des remplacements, où Dzeko reste sur le banc tout le match. Mais
et puis, il y a l'expulsion d'Alexis Sanchez, où tu te dis...
En plus
On aurait aimé voir la fin de match à 11 contre 11.
Mais tu vois, l'Inter, aujourd'hui, est redevenu quand même un club européen solide.
Ouais.
Et ils sont encore une fois dans les 16 derniers clubs de Ligue des Champions, comme la saison dernière. Donc... sans dire long quand même sur la qualité de l'effectif là, et moi je suis toujours aussi émerveillé de voir des joueurs comme Lautaro qui sur la scène européenne aussi affichent leur niveau international, et Lautaro pour moi aujourd'hui est un joueur évidemment de niveau international, et on l'a vu encore une fois lors de cette campagne. Donc non, l'Inter honnêtement c'est une petite surprise qu'ils sortent, voire même une grosse si on revient à quelques mois derrière au tirage, mais sur le papier et sur ce qu'on a vu lors de ces 6 matchs là, et même face au Victoria, c'était vachement maîtrisé, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Il n'y a pas eu de turbulence. Même dans le match le plus facile, ils ont été sérieux, ils ont été appliqués. Et on sait que parfois aussi, ça passe par là. Les champions, on sait que c'est la compétition des détails. Et l'Inter les a gérés un par un. Et c'est une qualification évidemment méritée.
Tiens, j'ai oublié, Guillaume, de te demander, on va faire un petit flashback, ta note sur 10 pour qualifier les performances des clubs italiens en Ligue des Champions. La Juve, tu leur mets combien?
Alors la Juve, on prend la moyenne italienne, on est clairement à 6.
On peut
dire que la moyenne est 5.
Non, on va dire la moyenne est 5. Pour,
alors, si la moyenne est 5, la Juve, je leur donne 3, 3,5.
T'es généreux, allez, je leur mets 2.
3. Oui. C'est très sévère, hein. En Italie, tu sais, 2 mais, ou 3, c'est très sévère, ça n'arrive jamais. Hein.
Bah, ça n'arrive jamais parce que ça n'arrive jamais que la Juve finisse avec 3 points oui. en face de groupe.
Ah, mais c'est pour ça. Mais pour dire à nos auditeurs que, toi comme moi, on lit beaucoup la presse,
ouais.
et c'est très rare de voir des 2 ou des 3. C'est... Ça n'arrive quasiment jamais.
Des 2, je crois que j'en ai jamais vu. Très
moi non plus. Honnêtement, les notes les plus sévères, c'est 5 généralement.
Ouais, et j'ai vu quelques 4 parfois quand tu passes vraiment au travers, mais en dessous, oui. C'est vraiment très rare. Ouais. Pour le Napoli, tu mets combien ?
Le Napoli, au vu des adversaires, au vu de ce qu'on a vu sur le terrain au niveau comptable, je leur mets un beau 8.
T'es pas généreux, hein. Moi je leur mets 9,5. Moi je trouve que c'est presque parfait en fait ce qu'ils ont fait, très sincèrement. Parce que le dernier match à Liverpool, t'es pas loin d'arracher un nul. Tu peux finir invaincu, tu vois, en mettant une valise de buts, en produisant du jeu.
Tu sais pourquoi, Johan, je suis pas généreux. En fait, c'est pas que je suis pas généreux, c'est que je suis trop conditionné par les notes que je lis tous les jours.
Ah, c'est possible.
Et malheureusement, tu sais que toi comme moi, que même. Alors, on parlait des mauvaises notes, mais des bonnes. Quand un joueur fait un grand match.
8,5.
T'es d'accord qu'il y a rarement. Voilà, tu vois. Et c'est vrai que je suis un peu conditionné par ça, mais t'as raison.
Alors, enlève le conditionnement. Tu remets combien à Naples ?
Ah, bah, s'il n'y a pas le conditionnement là, évidemment, je mets plus que 9.
Ouais.
Parce que tu peux pas faire mieux dans cette poule-là. Et comme tu disais, la défaite à Liverpool n'est pas méritée sur le papier. Il y a même ce but qui est annulé sur le 0-0 qui est très limite. Donc tu aurais pu faire quasiment l'an plein dans une poule très dure. Et tu mets 4 à Naples, tu gagnes 6 à Amsterdam. Donc oui, c'est quasiment parfait. Donc si je ne prends pas ce conditionnement italien que j'ai malheureusement, évidemment que c'est une poule presque parfaite et que probablement je mettrais la même que toi.
Et à l'Inter, tu mets combien ?
Alors on va dire sans conditionnement de la presse italienne, je leur mets au vu de la poule du Bayern et du Barça. Je leur mets un beau 8 pour le coup.
Ah, tu vois, j'hésite entre 7,5 et 8. Ouais, vu la difficulté, je suis d'accord avec toi. Vu la difficulté, je vais rajouter le demi-point et passer à 8 aussi. Je suis d'accord avec toi.
Parce que, tu vois, au-delà des deux matchs contre le Bayern qui est injouable, quasiment, parce que bon, le Bayern aujourd'hui est sur notre planète, les deux face au Barça sont très maîtrisés et les deux autres qui sont plus simples, ils les maîtrisent aussi. Donc, c'est quand même assez mérité.
On passe au Milan, mon cher Guillaume. Comme l'Inter, Milan termine deuxième de son groupe. 10 points également. C'est mieux que la saison passée, qui avait vu le Milan terminer dernier de sa poule avec Liverpool, l'Atlético et Porto. Moi, j'ai une vraie frustration. C'est le match à domicile contre Chelsea, qui est impossible à juger parce qu'il y a Tomori qui prend un rouge après 16 minutes. Où j'aurais aimé voir Milan face à... Ouais. Tu vois, j'aurais aimé... Parce que le match aller à Londres a été quand même très très compliqué. Vraiment, ils avaient été dominés. Le match retour, j'aurais aimé voir si Milan était capable d'aller chercher ce type de grande équipe à l'heure actuelle au niveau européen. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Parce que l'année dernière, c'était clairement non. Cette année, le match aller à Chelsea, c'est clairement non. Le match retour, malheureusement, on ne peut pas juger.
À Salzbourg, ça a été compliqué aussi, hein, parce que c'est une équipe qui est plus joueuse. Alors, c'est pas un gros club, hein, mais.
Les deux matchs contre Salzbourg sont. Alors, le match entier à Salzbourg et la première mi-temps à domicile à San Siro contre Salzbourg sont compliqués. Hein.
Bah, tu vois, c'est comme l'a dit Maldini après le match, c'est un long parcours. Et le fait que Milan gagne le titre à son dernier en Serie A et qu'aujourd'hui, il se qualifie en 8e de finale, tu vois, rien que pour le club et les joueurs, lever ce niveau d'exigence et se dire. Parce que là, on va arriver à la pause et se dire, bon, on va jouer en 8e de finale des champions. Il y en a beaucoup, Johan, qui vont jouer de 8e dans cet effectif-là.
Bien sûr.
Évidemment, si on enlève les Giroud et d'autres. Mais c'est un gap, encore une fois, que passe, et même un cap, que passe l'effectif du Milan, qui a on va dire, en Italie, on parle de percorso di crescita, donc un projet de croissance, on pourrait dire littéralement parlant, qui est assez linéaire, qui est assez cohérent. Et tu vois, tu passes, il y a encore 3 ans, et les frères du Milan se souviendront, il y avait eu ce match à Rio Ave, Johan, avec la séance de pénalty assez dingue, où Milan se qualifiait à l'époque pour la phase de groupe de Ligue Europa, au pénalty au bout du. Enfin, c'est pour dire quand. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, Milan est champion d'Italie en titre et passe en 8e de finale. Donc, tout n'a pas été parfait sur cette phase de poule, surtout dans une poule où aujourd'hui, autant la saison dernière, bah, t'avais quasiment rien à perdre parce que tu revenais, t'as eu un tirage qui a été très compliqué. Aujourd'hui, tu faisais quand même partie des favoris avec Chelsea. Tu as un peu tangué, tu as un peu vacillé, mais au final, bah, tu arrives à arracher cette qualification qui, pour le club, est très importante et pour les joueurs aussi. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un processus, un parcours qui se poursuit et c'est certain que tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été nickel, mais pour l'ensemble du club, c'est vraiment un cap important qui a été passé, tu vas me dire ton avis, mais moi c'est un peu le sentiment que j'ai avec ce club-là aujourd'hui.
Je suis d'accord, et puis on peut s'aligner sur l'Inter, sur les caps qui ont été franchis au fur et à mesure,
oui,
et se dire que là c'est une première étape en attendant autre chose. Et on le rappelle, on l'a dit dans les derniers podcasts de Calcio PP de manière générale, pas le dernier consacré au Napoli évidemment, mais Milan joue avec l'équipe de l'année dernière. Donc pour la phase de groupe, on espère aussi que certains joueurs auront pris un peu d'épaisseur, et il y en a surtout un qu'on attend évidemment, hein, on ne va pas lui mettre une trop grande pression, mais de Ketelaar doit être la valeur ajoutée par rapport à la saison passée, ce n'est pas le cas pour le moment. Soyons patients, soyons confiants, les qualités de joueurs ne sont pas en cause, loin de là. Mais c'est vrai que
les recrues ne sont même pas intégrées. Hein,
non, liste, pas pour le moment.
Chio n'est pas là, Adeline n'est pas là, Franks n'est pas là non plus. Donc, d'ailleurs, il y a un papier sur le Rio de la Gazeta où ils font, tu sais, le minutage, le nombre de minutes jouées par les recrues. Et Chio, et je crois, à 7 minutes à Vérone, et Franks à 30 à Gênes. Donc, tu vois, il y a encore des joueurs à ne pas perdre en route. Et alors, ils ne seront probablement pas là pour les huitièmes, sauf si tu les intègres dans la liste. Mais pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup les raisons. Mais voilà, ce huitième de finale, en soi, Johan, on est quasiment d'accord pour dire que Milan, alors on verra bien le tirage, évidemment, mais on n'aura quasiment rien à perdre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le Milan quand même d'il y a quelques décennies où vraiment, en huitième de finale, c'était le grand favori, même pour la victoire finale. Aujourd'hui, ce Milan-là arrivera en huitième avec un statut, encore une fois, en fonction du tirage. Maldini a parlé un peu d'outsider et c'est un peu ça aujourd'hui, de Minavagante, et c'est un peu outsider et Milan. Donc c'est aujourd'hui, je suis pas certain que le club qui va jouer Milan sera forcément très heureux de le faire, mais de leur côté, voilà, les joueurs de Pioli n'auront pas grand chose à perdre, et surtout on est curieux, mon cher Ivan, de voir certains joueurs arriver en huitième de finale comme Leao par exemple, hein, qu'on voit brillant en Italie, mais là, aujourd'hui, c'est le très, très, très haut niveau. Et en huitième de finale, il va être attendu au tournant. Donc, ce sera aussi pour certains joueurs, comme Théo Hernandez et comme d'autres, ce sera le moment d'afficher le niveau pour un huitième de finale de Ligue des Champions, où vraiment, là, c'est vraiment, on arrive sur le grand cru du football européen.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ta note Milan, mon cher Guillaume, sur les prestations.
Écoute, je mettrai 7.
Je
mettrai 7 parce qu'il passe, mais tout n'a pas été parfait.
Il passe avec 10 points, mais tu peux mettre difficilement plus parce qu'il y a eu des matchs quand même très compliqués. Guillaume, on passe à l'Europa League avec la Lazio et la Roma.
Descendons d'un cran.
Et exactement, on passe de la C1 à la C3. Et oui, on passe l'étape C2 qui n'existe plus. La Lazio, qui est comme la Juve, pour moi, une énorme déception. Troisième de son groupe d'Europa League, reversé quand même en Conference League. Alors on verra s'ils seront intéressés pour jouer la Conference League, mais les propos du directeur sportif n'allaient pas trop en ce sens. Après, c'était plus la petite attaque sur la Roma, avec un derby qui arrivait 3 semaines après les propos. Bon, pourquoi pas, hein. Mais moi, j'espère en tout cas qu'ils vont la jouer à fond, parce qu'on a vu l'année dernière avec la Roma que ça peut apporter beaucoup d'enthousiasme. Et aussi un palmarès européen. Alors, ils ont déjà une Coupe d'Europe, la Lazio, mais une Coupe qui n'existe plus. Donc, il faut aussi maintenant se remettre en quête de ce type de trophée. Moi, il y a un truc qui m'insupporte, et pourtant, vous connaissez un peu ma conception du football et ce que j'aime dans le football, etc. Donc, moi, Sarri, c'est plutôt un entraîneur qui...
C'est ses propos.
Qui me plaît, mais moi, en fait, j'aimerais bien que Sarri me parle de football en conférence de presse et pas d'arbitrage, quoi.
Il y en a combien de punchlines, on va dire, entre gros guillemets, hein, de punchlines depuis le début de la saison sur le terrain de l'Olympico. Hier, à Feyenoord, c'était l'arbitre, et puis c'était aussi les flacons d'urine jetés sur le.
Avant match, tu avais vu la conférence d'avant match?
Oui,
l'UEFA, c'est une honte. Ils ont accepté que le match de Feyenoord en championnat soit reporté. Mais on a envie de leur dire, l'UEFA, ils n'ont rien à dire. C'est la direction de la fédération néerlandaise. Donc,
Et comment tu expliques,
en championnat, c'est les arbitres. Et puis, enfin, ouais, j'ai envie que Sarri, qui est un tacticien qui me plaît, me parle de football et arrête de trouver des excuses sans arrêt. Parce que si on dit ça pour Mourinho, bah, il faut aussi le dire pour les autres, ouais. Même ceux qui ont dans l'esprit une autre philosophie de jeu, même si j'aime pas cette expression, mais on va
comment
utiliser
tu ça. Expliques toi quand même la différence entre la Lazio qu'on a pu voir à Bergame par exemple et la Lazio qu'on a vu face à Salerne, qu'on a vu en partie hier à Feyenoord? Comment tu expliques ces différences là, l'effectif, la qualité des remplaçants?
J'ai du mal à l'expliquer. La difficulté avec Sarri aussi, c'est qu'il demande souvent des joueurs pour allonger son effectif, on va le dire comme ça, et que finalement, est-ce qu'il leur fait vraiment confiance au quotidien, est-ce qu'il les met pas là un peu par défaut? Je pense que quand tu dépenses 10 millions pour Basic, 10 millions pour Marcos Antonio, 8 millions pour Casale, tu vois, quel est le temps de jeu total de tous ces joueurs-là?
Maximiliano aussi, hein,
Maximiliano,
gardien.
10 millions... Cancellieri, ça doit être 8. Enfin, voilà. Tu te souviens du Napoli, hein, avec les Pavoletti à 15, les Gabbiadini à, j'ai plus, 20, Diawara à 15. On s'en souvient de tout ça. Donc, je sais pas. Et puis, je suis pas certain que Sarri diffuse les bonnes ondes avant les matchs de Coupe d'Europe. Quand il explique sans arrêt que pour lui, c'est une tannée de jouer le jeudi, je suis pas sûr que ça envoie les bons signaux aux joueurs. Et d'ailleurs, quand tu regardes Sarri avec Naples, la Juve et la Lazio en Coupe d'Europe, bah, j'ai repris un peu les historiques. Hein. Naples, c'est 16e de Ligue Europa, puis 8e de C1 contre le Real. Donc ça, encore, voilà, il n'y a pas de problème. La troisième année, c'est 16e de C3 encore après élimination de la Ligue des Champions dans un groupe avec City, le Shakhtar et Feyenoord. Donc tu avais quand même de quoi passer. Avec la Juve, tu es éliminé de la C1 par Lyon. Et l'année dernière, t'es éliminé en 16e, donc en barrage de la Ligue Europa contre le Barça, certes, mais c'était pas non plus le grand Barça, hein, c'est un peu comme cette saison. Donc, ouais. Bon, je suis pas certain que Sarri ait envie vraiment de la Coupe d'Europe, et par conséquent, je suis pas sûr que la Coupe d'Europe ait envie de Sarri. C'est un peu.
Mais tu sais, la conférence FIC fera quand même office de juge de paix, dans le sens où la Lazio, quand même, arrive en tant que.
Favorite.
Que grande favorite, mais elle fait partie des favoris. Donc bien aujourd'hui. Sûr. La Ligue Europa, c'était peut-être un peu juste quand on voit surtout les équipes qui ont été reversées de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, en Conference League, la Lazio va devoir montrer plus et va devoir faire un beau parcours. Parce que tu en as parlé brièvement, mais le parcours de la Roma la semaine dernière n'a pas été parfait. Mais à la fin, il y a la Coupe. Et quand on voit l'euphorie qu'a suscité cette Coupe-là dans les rues de Rome, pour la Lazio, aujourd'hui, tu ne peux pas cracher sur une C4. Donc.
Puis le groupe est abordable, hein, Guillaume. Ils sont quand même pas fichus de battre le Sturm Graz ni à l'aller ni au retour. Hein.
Ah oui, mais c'est pour ça que, voilà, comme je te dis, moi, la Ligue Europa Conférence, malgré le propos de taré, qui aujourd'hui, forcément, c'est un peu faux et quand même, les joueurs lisent. Et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup motivé les troupes quand ton directeur sportif te dit que c'est la position des perdants. Mais à l'ASO aujourd'hui, pour moi, elle doit montrer bien des choses en Ligue Europa Conférence et elle doit faire un parcours plus qu'honorable. Donc, si ce n'est la victoire, au moins voilà, aller au bout, aller très loin, parce que c'est une compétition qui est à ton niveau.
Et puis, ça va nous permettre de faire la transition, mais la Roma est pris 6 à Bodø/Glimt l'année dernière, et la Lazio a quand même pris 5-1 à Midtjylland en phase de groupe. Donc, ta note pour la Lazio, mon cher Guillaume?
Écoute, avec ou sans conditionnement?
Ah, sans, toujours. Ce sera sans conditionnement, les notes.
Sans conditionnement, je mets 2,5.
Ah ouais, d'accord. Moi, je vais mettre 3,5 parce qu'il y a quand même 8 points. Donc,
oui, c'est vrai que
Mais bon, on est dans le même range. Hein, c'est-à-dire, voilà.
On est juste entre 2,5 et 3. Tu
non,
vois,
mais on est sur un range de. C'est pas bon, quoi, tout simplement.
Bah, tu te rends compte quand même cette défaite 5-1.
Ouais, non, c'est.
Quand même, tu peux pas.
C'est vrai. Mon cher Guillaume, on passe de l'autre côté du Tibre à la Roma, en difficulté tout au long de cette phase de groupe.
Battu
à Ludogorets, 1-6 face au Betis. Heureusement, il y avait le HJK Helsinki dans cette phase de groupe. Mourinho, en plus, n'a pas tant fait tourner que ça. Tu te souviens de Bodø/Glimt où il avait mis 9 remplaçants sur 11. Enfin, 9 remplaçants d'ailleurs en joueur de champ. Et on se souvient du désastre.
On les a pas beaucoup vus. Hein.
Ouais, c'est ça. On se souvient du désastre que ça avait causé. Là, bizarrement, il n'a pas retenté la même expérience, même s'il y a eu du turnover, mais ça, ça paraît plus ou moins logique. Mais pas autant que les autres années. Donc, il n'y a pas non plus cet effet. C'est toujours les remplaçants qu'on joue en Europa League. Je suis assez
Qu'est-ce
déçu.
Qu'est-ce que tu as pensé, toi?
Non, moi, je suis déçu de la phase. Moi, je suis déçu de la phase de groupe. Je pense qu'il faudra faire plus, faire mieux en barrage pour espérer quelque chose. Il faudra être plus dans la proposition de jeu qu'a fait la Roma en deuxième mi-temps hier contre Ludogorets. Et puis, il faudra être plus dur devant le but parce qu'on va y revenir. Hein. Mais la Roma a la deuxième plus haute valeur d'expected goals de toute la Ligue Europa. Et c'est pas possible.
Oui, c'est...
Et c'est pas Comment possible, de, c'est pas possible de rater autant de choses. Quoi. Enfin, tu vois, par exemple, je regarde aussi les stats de tir. La Roma, c'est 100 tirs en 6 matchs.
Est-ce que tu traduis ça par un manque de confiance des attaquants, comme on a pu voir Abraham à Vérone avec son incroyable, enfin, son loupé assez dingue? Est-ce que tu traduis ça par...
Il y a sans doute un peu de ça, c'est sans doute un peu mental. Aussi, il y a beaucoup d'efforts quand même. Secteur défensif, enfin, sur les phases défensives des attaquants qui peut-être coûtent un peu trop d'énergie. Et plus tu défends bas, bah, plus tu as de terrain à remonter, et plus tu as besoin de beaucoup de d'accélération, de vitesse, d'efforts à haute intensité, et donc peut-être que tu perds aussi un peu de fraîcheur devant le but, mais ouais, je globalement tu peux pas être satisfait quand t'es la Roma de cette phase de groupe.
Et alors, surtout, tu tangues encore hier soir, donc on enregistre vendredi, t'es encore, il y a un moment où t'es éliminé, t'es mené.
T'es à la limite, hein.
En face, ça marque le but de 2 qui est finalement annulé. Après, il y a Zaniolo qui vient enfin acter la qualification, mais ça passe encore ouais, très juste, quoi. Et en fait, t'as jamais, tu sais, cette sensation de commencer le match en sachant pertinemment que d'une manière ou d'une autre, ça va aller. Mm. Avec la Roma, c'est toujours un peu l'un ou un peu l'autre. Et voilà, au-delà des problèmes offensifs, moi on avait parlé, toi et moi, dans le dernier podcast Catch OPP, mais j'avais été très déçu par le match face à Naples, bien que Naples aujourd'hui, ouais, voilà, c'est une équipe qui soit au-dessus de quasiment tout le monde. Mais tu vois, dans la production et dans la proposition, quand je vois le matériel à disposition de Mourinho, j'ai toujours tendance à m'attendre à un peu plus que je peux voir. Et pourtant, Johan, toi qui connais bien aussi la pièce à Rome, il y a quand même un allant, même au niveau de l'euphorie, ou encore hier, le stade est plein, où vraiment t'as une équipe qui est portée par ses supporters. Mais tu vois, au niveau purement du contenu, des matchs aboutis de la première et dernière minute, c'est toujours, avec la Roma, c'est toujours un peu compliqué. Donc,
mais là, tu sais, c'est difficile de se souvenir de tous les matchs de cette saison, mais aboutis de la première à la dernière minute,
oui,
j'en vois un. Et en plus, il n'est même pas gagné, c'est contre l'Atalanta.
Ouais.
Où là, ils sont largement au-dessus et ils déroulent. Et malheureusement, devant le but,
rappelle-toi le match à Turin contre la Juve. Le match à Turin contre la Juve qui n'est pas fou en plus, alors que la Juve n'était pas dans un super moment. Et est égalé sur un coup de pied arrêté.
La première mi-temps était catastrophique et la deuxième était bonne.
Tu ne vas pas leur faire mal. Voilà, je suis toujours un peu dubitatif de le confier avec le jeu prôné et le contenu et la force de proposition. Donc, je m'attends à plus. Et encore une fois, la Ligue Europa Conférence, la saison dernière, c'est très très bien qu'il l'ait gagné, mais tout n'a pas été parfait. Et s'il n'y a pas ça au bout, on parle d'une autre saison. Alors, évidemment, elle y est, donc tant mieux pour le football italien et pour la Roma. Mais encore une fois, j'ai encore quelques doutes, tu vois, sur la Roma. Pas sur le contenu, pas sur l'effectif, mais on va dire sur la globalité de. Du jeu, de plein de choses. Encore plein de choses qui me laissent sur ma faim avec la Roma.
La seule chose positive que je vois, enfin pas la seule, mais une des choses positives que je vois, c'est que, tu vois, sur la fin de la Ligue Europa, il la joue vraiment à fond et que Mourinho met 6 joueurs offensifs et tu sens que voilà, c'est tout pour l'attaque. Et
il ne fait pas beaucoup tourner, comme tu
dis. Non, et puis il aurait très bien pu dire on va être reversé en Conference League et au final, tu as limite plus de chances de passer en barrage de Conference League vu la qualité des adversaires. Que là, maintenant, où ils peuvent rencontrer, alors on verra au tirage au sort, hein, mais le Barça, l'Ajax, Leverkusen,
oui,
Séville, voilà, ce type d'équipe-là. Donc voilà, au moins, il y a...
Au niveau de la note, pour cette Roma qualifiée, mais...
Bah, comme il passe, je vais mettre 6, mais je ne peux pas mettre plus. Ouais. Hein.
Écoute, moi, j'aurais mis 6 ou 6,5, mais trop peu de matchs aboutis, tu vois, il n'y a pas... Encore hier, tu vois, moi j'ai regardé le match que la Lazio c'était avant et la Fiorentina aussi, mais enfin, on a encore souffert quoi, devant le match. Et à la 82e, quand ils égalisent, bah, t'es quasiment éliminé, donc c'est pas normal. C'est pas normal à ce niveau-là de se faire peur comme ça et d'être que tranquille à la 85-86e quand Zaniolo marque. Donc ouais, 6 ou 6,5, mais vraiment pas plus.
Guillaume, on passe au dernier club italien engagé cette saison en Coupe d'Europe. C'est la Fiorentina, deuxième en Conference League, c'était le groupe A. Deuxième
là
pourquoi
aussi, hein.
Deuxième pourquoi, mon cher Guillaume? Bah, à cause de l'absurde match aller contre Riga.
Oh.
Souviens-toi, ce 1 partout avec, c'était combien, 34, je crois, ou 35 tirs?
Incroyable.
Côté Viola, d'ailleurs, on a vu en match retour qu'il y avait zéro, enfin, il n'y avait même pas photo entre les deux équipes, mais c'est ce match-là qui te met vraiment dedans. Après, l'équipe s'est bien repris, il y a eu des meilleurs matchs. Moi, j'ai une vraie interrogation, et on a eu un début de réponse quand même hier, Guillaume. Golini qui s'est déchiré sur toute la campagne, mais vraiment déchiré, lui qui était le gardien de la Conference League, puisque Terracciano jouait le championnat et Golini la Conference League. D'ailleurs, on peut s'intéresser à la trajectoire de Golini, hein, titulaire à l'Atalanta. L'Atalanta n'en veut plus, il part en prêt à Tottenham pour être deuxième gardien, il revient pour être deuxième gardien à la Fiorentina, il se déchire en Coupe d'Europe. À Riga, c'était Terracciano qui était titulaire d'ailleurs, peut-être pas que un hasard non plus. Finalement, la Fiorentina est qualifiée pour le barrage de Conference League. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut mettre tout de suite en avant, Guillaume, avant de te laisser la parole. La Fiorentina retrouvait quand même les deux matchs par semaine.
Oui.
On sait que c'est pas anodin. Tu passais de jouer généralement les samedis à faire jeudi plus dimanche, avec parfois des déplacements assez loin. Je pense notamment aux déplacements à Riga. Déplacements en Turquie, c'est pas à côté non plus. Tu as eu la longue blessure. On n'en peut plus. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il revienne vraiment en bonne santé de Nico Gonzalez, qui est quand même ton meilleur joueur. Donc ça, c'est pour le contexte. Après, qu'est-ce que tu as pensé de cette campagne?
Écoute, évidemment que l'essentiel est assuré avec la qualification. Après, on a vu plus ou moins les mêmes problèmes qu'on voit dans le championnat, c'est-à-dire la production qui est là, la volonté aussi, mais un nombre de limites incalculables devant où vraiment, là aussi, il y a un manque de confiance et on le voit avec certains joueurs. Mais c'est vrai que tu vois, quand c'est clinique, il n'y a pas photo. Et c'est vrai que la Fiorentina, quand même, on peut le dire, fait pas forcément un très très bon début de saison, hein.
Non,
en
non.
Général, c'est assez compliqué et on est un peu déçus de ce qu'on voit. Donc, le fait de revenir en Europe après autant de temps, c'est aussi un cap à passer, même si évidemment la Ligue Europa Conférence, mais voilà, rejouer les deux matchs par semaine, tu l'as dit, tu as un effectif bon, qui est quand même assez complet, mais voilà, il faut aussi que les deuxièmes lignes soient au niveau. Donc, pour moi, c'est une campagne qui est correcte. Voilà, c'est l'adjectif que j'emploierais, qui n'est pas accompli, mais qui est voilà, correct. Ils font le boulot parce qu'ils passent. Mais c'est vrai que ce match à Riga à domicile, moi, tu sais, ça me fait penser. Alors, peut-être que tu l'as, hein, faudrait que je le retrouve, mais le match de la Roma la saison dernière, enfin, la saison dernière, je ne sais plus si c'était contre Salerne ou. Moi, je le rappelle.
Ah oui, ils sont menés 1-0 sur un coup franc de Radovanovic.
Et oui, ouh, c'est incroyable. Ils font, mais oui, 35-36 tirs. Ils font 3 ou 4 poteaux. Enfin. Et ce match à Riga, là, il les met complètement dedans, alors qu'ils doivent gagner 10 fois. Mais en fait, voilà, c'est les mêmes problèmes. Et parfois, Italiano, tu sais, même en conférence de presse, quand tu vois, ou même après les matchs, il semble désabusé, tu sais. Parce qu'il dit, on fait ce qu'on doit faire, mais on ne traduit pas par les buts. Et c'est vrai qu'on l'a vu trop souvent dans cette phase de groupe. Donc, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes. Après, voilà, ils sont qualifiés pour la suite. Et c'est ce qui compte. Mais voilà, tout n'a pas été abouti. À part le dernier match où vraiment, tu vois, là, il n'y a pas eu photo. Ils ont été sérieux, ils ont concrétisé leurs occasions. Et voilà, le suspense était très tué. Et c'est ça avec la Fiorentina, même en championnat, s'ils étaient un peu plus cliniques devant,
ouais.
Bah, tu peux être certain que ça irait beaucoup mieux.
Il y a une petite question aussi. Moi, j'étais très étonné quand la Fiorentina hésitait entre Bayrami et Barak, tu sais, pour le recrutement d'un joueur un peu créatif au milieu, parce que c'est deux joueurs qui jouent en 10 et qu'il fallait adapter en 8. Dans le 4-3-3 d'Italiano, et moi je trouve qu'ils n'ont pas le volume de jeu et même la qualité technique pour être des relayeurs, enfin oui, des relayeurs dans un milieu à 3. Alors peut-être qu'avec le travail, on va y arriver, et Barak, j'en parle parce que hier il a été décisif, mais ça fait partie aussi des choses qui ont retardé, je trouve, un peu la Fiorentina, essayer de mettre Barak dans les meilleures conditions et lui était pas au niveau, et du coup ça a un petit peu galéré, les blessures à droite, à gauche, l'alternance Jovic-Cabral, ça marque pas, il y en a un qui joue, après c'est l'autre, etc.
Ouais. Ouais.
Et on sent un Italiano qui cherche vraiment la bonne formule.
Il tâtonne. Ouais,
et puis, encore une fois, je reviens dessus, mais la blessure de Nico Gonzalez, c'est une catastrophe pour la Fiorentina, c'est ton meilleur joueur, c'est le joueur le plus déterminant, c'est le joueur le plus moderne, c'est le joueur capable de casser des défenses sur des dribbles, des accélérations, donc c'est vraiment dommage.
Après, psychologiquement, ça va leur faire du bien quand même pour la suite. Tu vois, ils ont gagné à Spezia dans un match qui n'a pas été simple, parce qu'après la défaite contre l'Inter qui était très dure à encaisser pour la Fio, le fait d'enchaîner Spezia, de gagner hier, de se qualifier, ça peut donner quand même une espèce d'élan avant la pause. Donc même au niveau du moral et de la confiance, ça va faire du bien cette qualification pour la Viola.
Guillaume, on termine par ta note. Quelle note pour la Fiorentina?
Écoute, je leur mettrai 6. Voilà, parce que la qualification est là et c'est ce qui comptait au tout début, mais il y a eu encore trop de choses qui ont manqué sur certains matchs. Mais voilà, difficile de mettre moins de 6 quand il y a la qualification au bout.
Allez, je vais être un chouïa plus généreux, je vais mettre 7 parce que je vais dire que je prends juste en contexte le fait qu'ils retrouvaient l'Europe après longtemps et notamment cet enchaînement jeudi-dimanche qui peut être un peu déroutant quand tu le retrouves. Mais mettre 6, ça me va aussi en fait. Voilà, on est entre les deux, on va dire. Voilà, Guillaume, on a fait beaucoup plus court que d'habitude. On est aussi pris par le temps, on a pas mal de choses.
Bien sûr,
ça nous a permis quand même de revenir assez rapidement sur cette phase de groupe sans attendre trop longtemps et être un peu hors circuit par rapport à l'actualité. J'espère que ça a plu à nos auditeurs et auditrices. On rappelle vite fait les notes, les 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez, lisez, commentez, faites-nous des retours.
Ils peuvent noter aussi les clubs, comme nous on l'a fait.
Exactement.
Ils prennent un par un sur Twitter, ils nous mentionnent et puis ils peuvent nous dire les notes pour faire très concis, club, notes. Et comme ça, nous évidemment, après on pourra y réagir et quand on fera un podcast, même questions-réponses, on pourra revenir sur vos notes à nous.
Exactement. Voilà, Guillaume, on se retrouve. Allez, on dit quoi, prochain podcast au moment de la trêve Coupe du Monde?
Bah oui, on pourra faire un premier bilan quand même de cette première partie de saison.
Donc, exactement.
Johan, on aura du temps pendant la Coupe du Monde. Un peu plus.
Je vois pas de quoi tu parles. Allez, merci à toutes et à tous et à très vite pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé. Ciao, ciao.